Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour, l'édition du 11 janvier 2021. 21, c'est bien important cette partie-là. Aujourd'hui, on a un spécial rentrée scolaire pour le primaire. Nous allons parler avec Mme Edith Durand, qui est responsable du projet, responsable de projet et enseignante à l'école Villemaire à Laval, et qui va nous parler d'un projet d'intégration pour les enfants qui sont atteints du spectre du trouble de l'autisme. Nous allons avoir également quelqu'un de Anne Logement. Anne Logement est un organisme de logement en Estrie. Nous allons parler avec M. Paul Champagne. Et parlant logement, nous allons aussi nous entretenir avec M. Sébastien Buisson, qui est directeur général adjoint des habitations Bordelot dans la Naudière, un autre projet d'intégration. Alors, tout ça à Sans détour. Bonjour, Mme Durand. Comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien. Merci. Et vous?
Ben, ça va très bien. Je vous remercie. C'est une journée de rentrée scolaire aujourd'hui, si je ne me trompe.
Oui, c'est le retour, effectivement. Alors, nous étions bien heureux ce matin, ma collègue et moi, de retrouver nos petits loups à l'école.
Parce d'accord.
Parce que l'enseignement à distance à la maternelle, c'est pas évident.
Ben, je comprends, mais nous, on apprécie beaucoup que vous soyez avec nous aujourd'hui pour parler du projet « Grandir ensemble » à l'école primaire Villemaire de Laval. C'est un projet qui est en nomination au prix à part entière qui vont être présentés très bientôt par l'Office des personnes handicapées du Québec dans la catégorie établissement d'enseignement. L'école Villemaire, en soi, est-ce que c'est une école différente des autres?
Non, c'est une école de préscolaire.
D'accord.
Et de premier cycle du primaire. Donc, on a des élèves de la maternelle jusqu'en deuxième année. Et on a aussi des classes d'adaptation scolaire, 4 ans et 5 ans, d'élèves qui ont le trouble du spectre de l'autisme.
Et c'est dans ce cadre-là que le projet Grandir ensemble essaie de favoriser une intégration puis une préparation pour vos petits loups. Vos petits loups, ce sont vos élèves avec lesquels vous travaillez plus particulièrement.
Oui, alors le projet Grandir ensemble, c'est ça, c'est un projet plus d'inclusion, je vous dirais, parce que nous, dès le début de l'année scolaire, il y a des élèves de l'adaptation scolaire, donc des élèves qui ont le trouble du spectre de l'autisme, qui sont sélectionnés pour faire partie du projet. Donc, on prend les élèves qui ont plus d'habileté au niveau langagière et au niveau social, et ils sont inclus dans un groupe du préscolaire régulier, dont Mme Nathalie Dupuis est l'enseignante, et moi, je suis l'enseignante en adaptation scolaire. Et on a aussi une TES de Mme Sylvie Sanson.
Une TES? Oui, excusez-moi.
Une éducatrice spécialisée.
Ah, d'accord. Merci.
Et qui travaille avec nous à temps partiel.
Mm-hmm.
Et dès le départ, les élèves sont tous ensemble et nous, on parle en termes de défis et de forces. Alors, les élèves ne sont pas identifiés par leurs étiquettes, donc les amis du régulier ne savent pas qui était ça dans la classe.
Oui, on leur fait pas porter ils portent pas un chapeau pointu, là.
Non, ils portent pas de chapeau pointu, et c'est ça, on parle en termes de défis et de force. Alors, on va dire aux enfants, cet ami-là, il y a un défi au niveau du langage, alors lui, il faut lui montrer des petites images, des petits pictogrammes pour l'aider à comprendre le message. Ah, toi, par contre, regarde, ton défi, c'est de lever la main pour parler, parce que toi, tu parles beaucoup sans lever la main. Alors, on a tous des défis, puis on a tous des forces. Alors, nous, le projet Grandir ensemble, c'est ça, c'est de partir des forces des élèves pour les amener plus loin, et on travaille leurs défis en coopérant, là, tout le monde ensemble, chacun peut apporter au niveau du groupe.
Alors, finalement, il n'y a pas de différence. Tout le monde a des défis, tout le monde a des forces, et personne n'est pointé du doigt avec une atypie ou quelque chose qui les rend spéciales. Ben, c'est très bien. Comme ça, tout le monde est confortable, tout le monde est à l'aise, parce que le but, c'est de permettre à ces enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme de, après ça, continuer puis dans l'école régulière puis d'être intégrés et capables de suivre.
Oui, c'est exactement ça. Et le projet Grandir Ensemble ben, permet à ces élèves-là de d'avoir une trousse, hein, un coffre à outils, parce qu'on leur montre avec les élèves du régulier aussi qui sont comme un peu leur modèle. Hein, on leur montre bon comment communiquer. Au niveau des habiletés sociales aussi, on utilise le programme Vers le Pacifique, le programme du petit loup qui rentre à l'école. Alors avec eux, on travaille sous forme de jeux de rôle pour qu'ils apprennent à être capables d'inviter un ami à jouer dehors, être capable de s'affirmer, de dire non quand ils n'aiment pas quelque aussi. Chose, mais être capable de dire non. Être capable d'attendre son tour. Alors, on travaille ça en faisant des jeux de rôle aussi. Et puis, moi, je sors aussi aux récréations pour montrer des jeux aux enfants, pour faire en sorte que les enfants, justement, soient TSA, bien, soient inclus dans les jeux, soient pas seuls. Et puis, on leur montre les règles du jeu aussi, à être un bon gagnant, à être un bon perdant. Aussi,
ça, c'est plus difficile, fois, c'est ça. C'est plus difficile d'être un bon perdant, ça. Ça, j'en sais quelque chose.
Oui, des fois, c'est pas facile, effectivement.
Et est-ce que ça fait combien de temps que ça roule, ça, Grandir Ensemble?
Grandir Ensemble, c'est notre sixième année.
Oh, d'accord.
Alors, au début, la première année, ce qu'on faisait, c'est un petit peu d'intégration, là. Moi, j'avais une classe spécialisée où j'avais seulement des élèves autistes et ma collègue Nathalie Dupuis avait son groupe du régulier et notre éducatrice Sylvie Sanson faisait des petites périodes d'intégration dans le groupe avec des élèves, un ou deux élèves. Des fois, c'était prendre la collation, des fois, c'était lors d'une période de travail ou de jeu libre. Mais on s'est aperçu après la première année que les élèves gagnaient beaucoup à être ensemble vraiment à temps plein. Alors, l'année suivante, on a décidé de faire une classe mixte. Donc, on a jumelé les deux groupes pour en faire seulement un groupe. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de bien pour les élèves, autant des deux côtés.
Oui, tout
alors,
à fait.
Alors, au niveau des élèves TSA, ben, ça leur permet d'élargir leur vocabulaire, d'avoir une meilleure communication, d'être capable aussi d'entretenir une conversation, sont plus habiles aussi au niveau social, et puis ils développent une meilleure autonomie aussi, et comme je parlais tantôt aussi, une meilleure trousse à outils qu'ils sont capables d'utiliser ensuite en première année. Puis les élèves du régulier, ben ça les amène à avoir une plus grande ouverture d'esprit aussi, une acceptation de la différence, d'être capable aussi de la tolérer. Et ça amène aussi beaucoup d'entraide au niveau du groupe. Puis ça amène un bon sentiment d'appartenance, je vous dirais, au groupe. Alors, il y a beaucoup d'entraide entre les élèves. Au niveau de l'estime de soi, aussi la confiance en soi, c'est bien parce que chacun peut faire des petits pas et chacun progresse à son rythme.
Et à l'école Villemaire, donc, en plus, il y a la première et la deuxième année aussi qui où les mêmes élèves, après la première démarche de Grandir Ensemble, vont être intégrés au programme régulier de première, deuxième année?
Non, malheureusement, c'est ce qui me rend bien triste parce que nos élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme viennent de partout dans la Valle.
Okay.
Alors, c'est pas l'horaire de dessert. Donc, quand ils s'en vont en première année, ils retournent dans leur école de quartier.
D'accord.
Mais ceux, justement, qui sont en mesure de le faire, qui sont assez habiles, vont quand même intégrer la première année dans leur école de quartier avec un minimum de soutien d'une éducatrice spécialisée. Ça veut dire entre 8 et 9 heures de soutien par semaine.
Est-ce que dans les ce que je voulais vous demander, c'est dans les écoles où ces enfants-là sont éventuellement intégrés dans leur quartier respectif, est-ce qu'on dénote une différence dans leur capacité d'intégration par rapport à d'autres qui arrivent à leur école sans aucune préparation semblable à Grandir Ensemble?
Oui, on a remarqué, c'est ça, depuis qu'on a le projet Grandir Ensemble, que les élèves qu'on envoie au régulier vont rester au régulier avec une éducatrice spécialisée. Qui vont prolonger leur parcours justement au régulier. Il y en a une déjà qui est rendue au secondaire, là, qui est toujours au régulier. Ils vont être plus habiles aussi dans leurs relations sociales. Ils vont avoir moins de difficultés à résoudre leurs conflits avec leur père. et puis sont mieux préparés au niveau de la gestion des émotions aussi puis des habiletés sociales qu'un élève qui n'est pas passé par le projet. On en a un qui est revenu vers des classes spécialisées, mais c'est un élève qu'on voyait déjà qui était très envahi là, sur la cour d'école puis qui avait de la difficulté à gérer ses émotions. Donc, quand il arrivait en classe, bien, il n'était pas prêt là, pour suivre ses apprentissages. Alors, il est retourné en classe spécialisée. Mais je vous dirais que la grande majorité là, reste dans le cheminement régulier et on a de plus en plus qui sont intégrés suite à notre projet d'inclusion. Parce qu'avant, quand j'étais seulement en classe spécialisée, j'en avais un à deux sur six qui allaient être intégrés en première année. Et avec le projet Grandir Ensemble, on en a, je vous dirais, de entre quatre et six depuis les cinq dernières années.
Donc, la preuve est faite. Les petits gradués, si je peux dire, du programme Grandir Ensemble, quand ils se retrouvent au régulier, ben ils s'intègrent mieux. Donc, votre programme fonctionne.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres écoles ou d'autres commissions scolaires qui veulent imiter votre geste parce que vous avez mis finalement au point un plan d'intervention puis d'intégration qui fonctionne bien?
Oui, bien nous, ce qu'on aimerait, c'est justement que ça se poursuive dans la commission scolaire, bien, au centre de services de Laval, mais partout aussi au Québec. Mais ça prend deux enseignantes qui sont motivées, qui croient au projet, qui croient aux forces, qui ont une volonté commune, là, puis qui mettent leurs forces ensemble pour travailler en équipe pour que ça fonctionne. Parce que seulement des périodes d'intégration, je vous dirais que oui, il y en a dans plusieurs écoles. Mais vraiment, comme nous, une inclusion à temps plein où les élèves sont toujours ensemble pour les périodes d'apprentissage, les récréations, le dîner, ça ne se fait pas partout. Là. Alors, à Laval, c'est un projet qui est innovateur. Puis on aimerait ça que ça se poursuive justement. Puis même en première, deuxième année aussi, ça serait intéressant aussi. Puis qu'il y en ait d'autres au préscolaire.
Parce que la preuve est faite, si on enlève l'étiquette, tout le monde est pareil finalement et ça fonctionne bien. Avec le confinement qu'on a vécu l'automne et puis maintenant cet hiver que ça va pas mieux, mais le primaire ouvre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de spécial à partir de maintenant? Comment est-ce que votre démarche a changé avec la situation actuelle?
Bien, ce matin, tous les petits loups, bien, nous, les enseignantes, on était bien contentes de les retrouver, puis eux autres aussi, parce que l'enseignement, justement, à distance, avec des élèves aussi qui sont autistes, c'est pas toujours évident être capable d'ouvrir, fermer le petit micro, être capable de suivre les apprentissages. Donc, on était bien contents de les retrouver. C'est sûr qu'on fait attention. Il y a beaucoup le lavage des mains, respecter la distance aussi. Mais les enfants sont tellement heureux de se retrouver. Puis, pour travailler la communication puis les habiletés sociales, bien, c'est important d'être là en présence pour enseigner ça. Même chose pour la gestion des émotions. Alors, nous, on continue avec notre beau projet au quotidien. Puis avec des élèves présents, bien, c'est encore plus agréable et plus fonctionnel aussi pour les élèves, pour leurs apprentissages.
Bien, c'est formidable. Alors, on a un exemple comme quoi, si on arrête de nommer les gens sur une base d'atypie, puis de les restreindre à ce qu'ils peuvent être d'une façon, mais pas de toutes les façons, bien évidemment, c'est sûr que ça les... Est-ce que les parents ont bien réagi à cette approche-là? Parce que pour eux, ça devait être aussi un plaisir de voir leur enfant mieux s'intégrer avec leurs petits camarades, pas juste à l'école, mais aussi hors de l'école.
Oui, on a beaucoup de témoignages de parents, d'ailleurs, depuis les cinq dernières années, comme quoi les parents trouvent que les relations entre frères et sœurs se sont améliorées.
À la maison, oui.
Oui, à la maison. Mm-hmm. Et aussi au niveau scolaire, après, là, au niveau des relations avec les autres, au niveau de la communication aussi, les enfants sont plus habiles pour s'exprimer, pour comprendre aussi des consignes plus complexes, je vous dirais.
Bravo.
Puis, au niveau des parents aussi, bien, ils sont très enchantés. Puis souvent, ça se parle de bouche à oreille. Donc,
et d'autres familles qui vivent avec cette problématique-là vont être capables aussi peut-être faire des pressions ou de voir à ce que leur enfant soit dirigé au bon endroit. Malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste, Mme Durand, mais ça m'a fait très plaisir de vous parler. Et aussi, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. La journée n'est pas finie. Madame Édith Durand, qui est responsable du projet et enseignante en adaptation scolaire et sociale à la commission scolaire de Laval, à l'école primaire Villemaire pour le projet d'intégration Grandir Ensemble. Bien, merci beaucoup, Madame Durand, et bonne fin d'année.
Merci, au revoir.
Du tombeau, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau, c'est le début d'un temps nouveau. On commence à se parler en peine, on commence à parler doucement, à se dire je t'aime sur je t'aime, et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants. Les détours du tour du monde, on a des yeux de cinérama, nos âmes sont devenues des ballons-sondes, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est du tambour, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau, c'est le début d'un temps nouveau, c'est le début d'un, c'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule vertu, c'est le début d'un.
René Claude, qui nous a quittés malheureusement l'année dernière, il n'y a pas quelques mois à peine. L'organisme Anne Logement propose des logements adaptés aux personnes en situation de handicap en Estrie. Et nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie M. Paul Champagne, directeur général. Bonjour, M. Champagne.
Bonjour, monsieur.
Ça va bien, oui?
Bien, c'est sûr que ça va bien.
La première question que j'ai pour vous, oui, la première question que j'ai pour vous est un peu sotte. Là. C'est, pourquoi c'est Anne Logement, H-A-N-Logement? C'est quoi le H-A-N?
Handicapé.
Bon, merci. Ça, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est bon, ça. Bon point, bon point. Alors, d'où ça vient, Anne Logement? Comment ça a commencé?
Écoutez, Anne Logement, ça a débuté d'une drôle de façon. C'était un organisme de Magog qui rêvait d'avoir des logements adaptés pour les personnes handicapées. Mm-hmm. Moi, j'étais à la semi-retraite sur une ferme à élever des moutons après avoir vendu mes entreprises.
D'accord.
Et puis, je les ai rencontrés, ils m'ont invité dans une réunion de groupe, puis ils voulaient bâtir un immeuble, puis je trouvais qu'il n'y avait pas la façon, disons, à faire des soupers spaghetti, c'est-à-dire de sortir des millions.
Oui.
Alors, je lui aurais dit, je vais vous en faire un immeuble. Donc, j'ai fait appel à mes connaissances pour construire un immeuble. Et puis, ça a fonctionné très bien. Dans 2 ans, on avait un immeuble construit.
Ça, c'était en quelle année, ça?
Ah, oh, ça fait 20 ans déjà. Là.
Oh, alors votre pré-retraite à faire les moutons, ça fait 20 ans que ça a changé, là.
Oui, c'est ça.
OK.
Mais parce que c'était un peu un drôle de circonstance. Les gens qui rêvaient d'avoir un immeuble comme ça depuis des années puis des années, ils n'y croyaient plus du tout. Alors, quand ils en ont vu un, il y a eu à peu près 300 noms qui sont rajoutés à une liste d'attente pour y aller. Puis là, ils m'ont regardé à ce que j'appelle des grands yeux de beagle, là, en détresse, en disant, Monsieur Champagne, priez-vous à construire un deuxième.
Un autre, puis un autre. Vous êtes rendu à combien maintenant d'immeubles?
16
immeubles, tous dans la région de l'Estrie?
Oui, tous dans la région de l'Estrie.
Et ça
puis la nouvelle qu'on parle de ce temps-là, c'est que là, on va répandre la bonne œuvre là, à l'extérieur de l'Estrie,
d'accord,
dans 5 autres régions.
Ben, c'est formidable parce que, expliquez-nous d'un point de vue financier, parce que si les gens n'ont pas d'argent ou à peine pour payer leur loyer, des loyers modiques, parce qu'on sait que l'employabilité pour les gens qui vivent avec un handicap, c'est pas très fort. Alors, ces gens-là ont des revenus modestes. Comment est-ce qu'on peut lever de terre des immeubles tout neufs avec des locataires qui ne sont pas très argentés?
Bien, écoute, moi, j'ai fait une approche à faire là-dedans.
Oui.
Et puis, je me suis dit, premièrement, ça prend des sous. Deuxièmement, faut pas qu'on emprunte trop, donc ça prend des dons ou des mises de fonds où il n'y a pas de remboursement. Et troisièmement, ça prend de l'aide du gouvernement un petit peu au niveau des locataires pour baisser leur coût de loyer.
D'accord.
Ce qui fait que nos immeubles sont bâtis grâce à plusieurs donateurs et à du financement très avantageux. Et aussi, avec l'aide du gouvernement, à des loyers à prix modique là, qui équivalent à peu près à 25 % des coûts de leur revenu par mois, ce qui fait que les gens paient en moyenne, je dirais, entre 200 et 250 $ par mois de loyer.
Mais ils payent à la hauteur de leur capacité de payer.
Ah, et même, tu sais, c'est très avantageux. Là.
D'accord.
Parce que, on parle quand même d'un immeuble qui coûte par logement environ 250 000 $ là,
parce que toute l'adaptation que vous devez faire, parce que ce n'est pas des immeubles pour quelqu'un qui a une mobilité totale, vous avez des problèmes de mobilité, vous avez peut-être... Quelles sont les formes de handicap avec lesquelles vivent vos locataires? Est-ce que c'est varié?
Écoute, dans un premier temps, les gens qui nous ont approchés étaient des gens qui avaient une mobilité réduite, donc des
d'accord.
gens en chaise roulante, des gens qui avaient un handicap sévère. Et puis, on a développé avec eux un ensemble de critères architecturaux avec des architectes et puis différents organismes pour pouvoir arriver à faire des logements où les gens, même très handicapés, pouvaient vivre
de façon autonome aussi.
Oui, de façon autonome, ce qui fait que je dirais qu'il y a une cinquantaine d'adaptations dans chacun de nos loyers là, qui sont propres à notre design, qui ont été développées au cours des années. Puis c'est sûr qu'en ayant construit 16 immeubles et à coup de force et d'erreur, on a amélioré notre design.
Voilà.
Ça fait que maintenant, je pense qu'on est pas mal à point. Là,
vous êtes capable de mettre à niveau le premier, celui où il y a eu peut-être quelques lacunes. Et est-ce que vues et voix, on a beaucoup de nos auditeurs qui, comme moi, sont des personnes qui ont des handicaps visuels. Est-ce qu'il y a des adaptations si vous avez des locataires qui ont un handicap visuel?
Oui, j'en ai plusieurs même qui ont une dégradation très importante de la vue, je dirais jusqu'à 90%. Et différentes adaptations. Premièrement, tout notre système d'éclairage est pensé en fonction de ces gens-là.
D'accord.
Ce qui fait que on peut mettre des ampoules très puissantes dans chacune de nos ampoules, de nos lumières, pour pouvoir éclairer bien. Notre système d'alarme est visuel et sonore, donc pour les gens avec un manque de vue, ben c'est sûr que le sonore est intéressant. On a aussi, par exemple, dans nos corridors, de la peinture avec des points repères, donc des contrastes entre les différents passages. Pour permettre là, de se faire des points repères quand on a une petite acuité visuelle.
Exact.
Et puis finalement, comme on n'a aucun seuil ni à l'entrée, parce que les gens handicapés ne peuvent pas avoir de seuil, ben c'est sûr que ça fait beaucoup moins de place pour s'enfarger dans le fond. Tu sais.
Ben c'est parfait.
On a aussi les ouvre-portes automatiques dans certains cas qui aident là-dedans.
Oui, aussi, ça aussi, c'est pratique. Est-ce que vous avez des salles communautaires? Est-ce qu'il y a d'autres services, à part du logement, qui sont offerts dans chacun des immeubles ou c'est purement ce qu'on appelle familièrement un bloc appartement?
c'est pas mal plus un bloc appartement. Ben, c'est pas un bloc appartement parce que ce sont des maisons arrangées.
Ah, d'accord.
Donc, ça ressemble bien plus à une résidence privée. Parce que les gens, on s'est aperçu avec les amis que le fait d'avoir une entrée privée augmentait beaucoup l'estime de soi.
Ah, ben
on avait comme l'impression d'arriver chez nous.
Exact.
On ne vivait pas dans un bloc appartement, justement.
Ah, d'accord.
Dans une maison. Donc ça, ça leur a augmenté beaucoup la
qualité de vie, puis le plaisir d'y être. Puis,
c'est ça. Et puis par rapport au voisinage aussi, ça a rendu les immeubles moins tagués par rapport à notre clientèle.
Ben oui, puis aussi, si vous avez votre porte directement, vous n'avez pas besoin de rentrer dans un hall d'entrée, puis après ça, d'aller retrouver l'ascenseur, puis de vous retrouver dans un corridor, puis là, de retrouver votre porte d'appartement en plus, là, ça fait beaucoup de complications.
Actuellement, je te dirais, on a peut-être 125 locataires, puis je dirais qu'il y en a au moins une bonne dizaine là, qui ont un problème d'acuité visuelle.
Oui, puis les autres aussi doivent l'apprécier d'avoir ce sentiment-là, d'être ça, c'est ma porte, c'est mon adresse. Alors, ça ressemble plus à ce qu'on appelle des maisons de ville, là, où
oui,
c'est une rangée
exactement.
Avec chacun une sortie de plein pied vers le trottoir. Alors, quels sont vos partenaires?
On fait même un partenariat avec les villes, souvent, pour leur demander d'avoir une adresse privée.
D'accord.
Et non une adresse de logement. Là, c'est...
OK.
Ça fait qu'on n'habite pas au numéro 1, 2 ou 3.
Ou le 325B. Oui.
Donc, c'est vraiment chez eux. Donc, ça aussi, c'est apprécié. C'est les petits trucs qu'on a appris avec les années hein, qui font que les gens sont fiers.
Je suppose que... Donc, vous parliez des villes comme partenaires, mais vous avez d'autres partenaires qui vous aident dans la structure financière pour que ce soit possible. Je pense qu'il y a le Fonds immobilier de solidarité de la FTQ, entre autres.
Alors, écoute, on a vraiment mis sur pied un montage financier de rêve, je dirais, où ce que le Fonds financier de la FTQ met beaucoup de sous avec nous autres parce qu'ils vont doubler la mise à fond des donateurs.
Okay.
Et puis, les donateurs, on peut les financer sur plusieurs années grâce à Investissement Québec. J'ai des taux préférentiels avec... Groupe Desjardins, puis Caisse d'économie Desjardins.
D'accord.
On a vraiment un package là, qui sort de l'ordinaire. Ce qui fait que c'est quand on regarde un peu l'immobilier au Québec, en tout cas pour les personnes en difficulté, on parle d'une moyenne d'à peu près 10 ans pour aboutir à un projet. Et puis moi, mes projets de A à Z sont finis en dedans d'un an. Là.
Et parce que ce sont des partenaires aussi qui ne sont pas purement ou strictement estriens, ce sont des partenaires avec lesquels vous pouvez reproduire le même modèle ailleurs et c'est là où vous êtes rendu maintenant. Vous allez exporter ça dans d'autres régions du Québec.
Bien, c'est un peu ça la beauté du truc. Tu sais, dans tous les projets immobiliers pour les personnes démunies, c'est toujours l'argent qui est le nerf de la guerre. Hein. On a beau avoir des bonnes idées et des bonnes intentions, ça prend des sous pour la réaliser. Moi mon approche d'affaires est un peu à l'inverse. On va avoir des sous. Quand on aura des sous, ben les gens vont nous
écouter
parce que ça va aller vite.
Built it, they'll come. Ben, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, M. Champagne. C'est tout le temps dont nous disposons. Et je vous souhaite que votre modèle se répande et que les gens trouvent logement pour eux. Merci. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bye.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Voilà, c'est dit. Bien, je vous remercie d'être avec nous. Nous avons maintenant notre compagnie, M. Sébastien Buisson, qui est directeur général adjoint des Habitations Bordelot. Habitations Bordelot est une entreprise qui est finaliste dans la catégorie Entreprise soutenant l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Alors, ça aussi, éventuellement, peut-être lauréat du prix part entière de l'OPHQ. Monsieur Buisson, bonjour.
Bonjour, M. Beauregard.
Alors, vous êtes d'abord, il faut vous situer les Habitations Bordelot. Ce sont des résidences pour aînés.
Oui.
Et vous êtes surtout à Saint-Charles-Borromée, près de Joliette.
En plein ça. Les Habitations Bordelot, près de 20 ans dans le milieu des résidences privées pour aînés. Présentement, c'est 6 résidences, près de 925 appartements pour les Habitations Bordelot. Près de 300 employés dans la région, près de 1000 résidents, plus de 1000 résidents. Une partie importante de Saint-Charles-Borromée.
Et comment se fait-il que des résidences pour personnes âgées maintenant se retrouvent en liste pour un prix pour l'intégration? Parce que vous avez donc des employés qui, eux, ont des challenges d'intégration en emploi parce qu'ils vivent des situations d'handicap.
Oui. On a un comité à l'interne. C'est sûr qu'une des missions, la mission des habitations Bordeaux, c'est d'améliorer la condition de vie des aînés ou surtout de briser l'isolement chez les personnes retraitées.
Oui.
Et on a un comité à l'interne, comité milieu de vie et loisirs. Et en 98, sans la nommer, là, une multinationale américaine qui avait beaucoup de travailleurs...
dans le commerce du détail, je pense.
Oui, c'est ça. Voilà. et cette compagnie-là avait aboli les programmes d'aide ou les programmes d'intégration à l'emploi pour les gens qui avaient un handicap. Et nous, c'était venu dans notre comité de direction, on s'en était parlé, et notre coordonnatrice au milieu de vie nous a dit « Pourquoi qu'on n'irait pas de l'avant, nous? Est-ce qu'on pourra approcher des organismes régionaux qui auraient besoin de place pour faire des stages ou de pouvoir amener peut-être une nouvelle approche? » C'était pas un milieu, les résidences privées pour aînés n'étaient peut-être pas le milieu ou qui était visé par ces stages-là. Donc, on a approché les organismes de la région et on a mis en place trois personnes qui souffraient d'un handicap qui sont venues à l'emploi des habitations.
Est-ce qu'on parle d'handicap moteur ou handicap d'une déficience intellectuelle?
Déficience intellectuelle, c'est trois personnes qui souffrent de trisomie 21. Mm-hmm. De léger à moyennement sévère là, pour pour les trois personnes. Donc, on a commencé avec une personne qui est Kimberly, qui est arrivée à l'emploi avec nous. Et on a travaillé avec son éducateur et aussi notre comité des loisirs à mettre en place un milieu de travail qui était stimulant pour Kimberly.
Et puis après ça, ben ça s'est répandu, ça s'est ouvert à toutes vos... Parce que pendant ce temps-là, vous construisiez d'autres résidences, donc votre modèle s'est reproduit à chaque fois que vous avez mis sur pied ou vous avez mis en chantier une nouvelle résidence pour aînés. Maintenant, c'est la caractéristique dans les résidences Bordelot d'avoir un plan de sociabilisation pour vos résidents qui mettent en partie en cause des personnes qui ont des handicaps intellectuels, je pense.
Oui, il y a des comités de résidents. Ah. Et ça s'est mis à en discuter. Et on a fait une publication, je me rappelle, Facebook, dans le temps, pour présenter l'arrivée de Kimberly, notre première qui est arrivée avec nous. Et ça a eu un impact. Je crois qu'on a eu près de... Et puis on est un organisme, oui, mais je n'étais pas habitué d'avoir autant de vues pour une publication. Je pense qu'on est monté à près de 45 000 vues à cette publication-là. Puis on a vu qu'il y avait eu un impact. Et là, les résidents des autres résidences ont commencé à nous parler, et les employés aussi.
D'accord.
Parce que souvent, ils se promenaient hors COVID, les employés se promenaient de résidence en résidence. Oui. Et là, ils disaient, on a une nouvelle employée avec nous qui on intègre au travail. Et là, ça a comme lié les équipes. L'arrivée des trois personnes avec nous, les trois nouveaux employés, autant au niveau des résidents, mais je dirais encore beaucoup plus au niveau des employés, ça a apporté ça a réduit les préjugés, diminué les stéréotypes. Souvent, les personnes aînées font affaire ou aussi des fois avec
L'âgisme.
Des préjugés par rapport à l'âgisme. Là.
Oui.
Donc, le fait d'arriver avec des gens qui avaient un trouble comme la trisomie 21, bien, eux, ça a permis de démystifier les choses. C'est des gens qui ont toujours le sourire.
Oui, ils ont beaucoup d'entre-gens. Ça, c'est ce qui est plaisant d'être en leur compagnie. C'est des gens qui voient les choses du bon côté, puis qui ont un caractère plaisant, aimable, presque tout le temps. Là, des filles choquent comme tout le monde. Là. Ouais.
Oui, ils sont joueurs, très affectueux aussi.
Oui.
Ils le démontrent facilement aussi quand ils deviennent plus affectueux. Mm-hmm. Donc, on a travaillé les projets, on a approché le programme Défi, nous, ici, dans la Naudière, qui est une démarche éducative favorisant l'intégration sociale. Et aussi une formation préparatoire à l'emploi.
Quelle sorte d'emploi, justement, est-ce qu'ils occupent dans une résidence? Est-ce qu'ils sont simplement techniciens en loisirs dans la grande salle communautaire ou est-ce qu'ils ont des tâches particulières auprès des résidents ou dans l'immeuble?
Ils font les mêmes tâches que les employés pour lesquels qu'on embauche. Je donne un exemple. On avait commencé des fois à faire de l'entretien ménager. Mm-hmm. Et on s'est rendu compte que pour une des employées, c'était moins son attrait. Mais les cuisines, pour elle, étaient quelque chose de très important. Donc, on a transféré son emploi quotidien vers les cuisines, c'est sûr, toutes les mesures d'hygiène qui devaient être respectées, les monotages qui ont été mis en place dans la séquence pour bien respecter l'aptitude et pas non plus amener un stress, dire « OK, oui, j'aime ça travailler dans la cuisine, mais là, c'est pas moi qui vais faire à manger pour toutes les résidents ce midi, là, c'est seulement d'apporter un aide ». Et ça a apporté même que, je me souviens, la première semaine qu'on a eue, la famille nous rappelle le vendredi, puis nous ont remercié. Puis je fais attention des fois quand je le dis, j'ai un peu une émotion, c'est que l'employé est allé voir ses parents, puis elle dit « Maman, c'était la plus belle semaine de toute ma vie. » Donc, l'impact que ça peut avoir au niveau de la famille et au niveau de la personne, de savoir qu'ils sont intégrés.
C'est énorme.
Sont habillés comme nos employés. Employés ont des uniformes Habitation Bordeaux. Donc, ils ont leur uniforme Habitation Bordeaux. Ils ont leur nom écrit sur leur uniforme. Donc, c'est quelque chose qui est pour eux autres qui sont comme...
C'est ça l'intégration. L'intégration, c'est d'être comme tout le monde. Oui. Pas d'avoir un X orange dans le dos, là, ou quelque chose qui nous distingue. Puis, votre clientèle, sont des personnes qui sont âgées,
70
ans et plus, qui souvent... voient pas beaucoup leur famille, ils ont un milieu social qui a beaucoup rétréci avec les années. Alors, eux, d'avoir la compagnie de gens qui sont ouverts et qui ont des habiletés sociales, je dirais, évidentes, eux aussi, ils aiment ça.
Oui, puis on a d'anciens professionnels, des anciens professeurs, des gens qui ont déjà travaillé dans le milieu comme éducateurs ou des gens professionnels, puis... ils s'identifient rapidement aux employés. Donc, des fois, c'est une petite attention, que ce soit un sourire, que ce soit un clin d'œil, que ce soit juste des fois, j'allais dire un petit cadeau, mais c'est plutôt rare, mais vous comprenez, des fois, l'attention qui est là. Puis des fois, dans les pauses, les résidents sont en train de faire, je sais pas moi, un casse-tête, sont en train de faire une activité, puis souvent l'employé allait participer avec eux, ça amène une toute autre dynamique dans leur milieu. Donc, puis comme vous dites, puis c'est très bien ce que vous dites, c'est souvent la présence familiale par l'éloignement. Par exemple, des fois, il y a des familles que leurs enfants sont en région plus éloignée ou donc il y a moins de présence. Mais l'affection, qu'on a parlé tantôt, que des fois, c'est des gens très affectueux et tout ça. Donc, ils retrouvent ça, puis ils peuvent transmettre certaines informations. Puis l'aspect aussi de montrer quelque chose à quelqu'un, c'est important. Dans la Naudière, la tradition, je dirais, on parle beaucoup de la musique traditionnelle, on vient de sortir du temps des fêtes. La musique, la région de la Naudière est une région où c'est la tradition musicale, mais aussi la puisque la bottine souriante, et tout ça vient de la région de la Naudière. Mais la tradition orale, par les contes et l'histoire, c'est quelque chose de très important. Donc, le fait que les personnes puissent transmettre à quelqu'un d'autre, plus jeune, une activité ou une façon de faire, pour eux autres, c'est gratifiant.
Je m'excuse de vous poser la question, mais quand on pense à une résidence pour personnes âgées, pour aînés, dans le contexte actuel de la COVID-19, on ne peut pas s'empêcher de se dire vous avez dû avoir une grosse année puis c'est pas fini. Comment est-ce que vous pouvez poursuivre cette intégration-là tout en respectant les réglementations sanitaires?
C'est ça. Présentement, ce qu'on fait, c'est les tâches, des fois, ont changé. Exemple, si on avait un employé qui travaillait plus sur l'entretien ménager, c'est sûr que ça a changé. Puis il a fallu aller aussi dans les mesures que l'employé était capable de respecter, les mesures sanitaires. Donc, le port du masque ou le respect du 2 mètres. Donc, les journées ont été plus extensionnées. Je dirais qu'entre les deux vagues, entre la première vague et la deuxième vague, deux de nos trois employés sont revenus avec nous. Et là, ils ont dû requitter là, dernièrement là, pour une, parce qu'une a dû quitter, mais elle commence à revenir, là, c'est que à partir de 21 ans, leur programme termine.
Oui.
Même si la personne a l'air encore d'une enfant, qui a d'une préadolescente, mais elle a 21 ans, mais leur programme qui ont...
le soutien change. Il y a comme un précipice ou une falaise là où... Une fois qu'on, oui. qu'on a passé l'âge chronologique, là, les, malheureusement, les soutiens gouvernementaux, là, on tombe de haut. Ça, c'est une problématique que les familles ont souvent quand ils ont des enfants adultes qui atteignent malheureusement cette date fatidique.
Mais c'est monsieur... C'est notre réalité. C'est oui. notre réalité. Puis on a pu voir une personne que facilement 35 % d'augmentation de son autonomie, mais oui. elle arrivait à 21 ans. Puis on s'est dit, non, il reste encore beaucoup de chemin à faire.
Sur votre page web que j'ai visitée, vous ne parlez pas mm-hmm. vraiment de cette intégration-là. Vous êtes très modeste. Puis je me demandais mm-hmm. aussi, une autre chose qui m'a attiré sur oui. votre page web, c'est la Fondation Bordelot. Donc, vous avez un organisme qui est de charité qui est relié à tout ça.
Oui. C'est vrai que l'idée du prix à part entière... on connaissait pas cette reconnaissance-là. C'est un médecin qui travaille avec nous. On a deux médecins qui travaillent à temps plein aux habitations pour les résidents et les unités de soins. Ce sont des unités qui sont semi-autonomes, qu'on appelle. Et c'est un des médecins qui nous avait parlé de cette campagne-là, ce prix-là qui pouvait être mis gouvernemental. Puis là, on a proposer ça, puis là, on voit l'impact que ça peut avoir. Donc, okay. Je pense qu'il pourrait y avoir une correction justement sur le site Internet, puis
ben oui.
c'est l'approche qu'il peut y avoir, ça,
vous avez de quoi être fier, M. Buisson. Ben, oui. Je dois vous laisser parce que le oui. temps file, mais je vous remercie beaucoup d'avoir été là, puis on a hâte d'avoir les résultats de vos intégrations futures et oui. dans la région de la Naudière. Bien, merci beaucoup.
Et merci, M. Beauregard.
Ça fait plaisir.
Il est, selon moi, absolument impossible d'écouter cette chanson et être de mauvaise humeur. J'écoute cette chanson-là le printemps, quand on ouvre les fenêtres grand, 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 puis on fait aérer la maison. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est le 11 janvier et il y a beaucoup de choses qui se passent avec les mesures récemment annoncées par le gouvernement. Il est important de se tenir au courant et nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Christiane Campagna, recherchiste extraordinaire. Bonjour, Christiane.
Bonjour, François. Tu sais, moi, ce qui m'a amené le soleil et qui m'a rendu de bonne humeur, c'est la simple évocation de Saint-Charles Borromée.
Ah!
Parce que c'est l'endroit où il y a le plus gros festival de musique traditionnelle au Québec qui se passe au mois de juillet. Un endroit où je suis toujours heureuse.
Bien, M. Buisson, justement, parlait de cette tradition de la Naudière. Et on l'espère pouvoir aller à un festival et y être tous en même temps le plus simplement possible bientôt. Mais en attendant, il y a beaucoup de choses qui se passent et les organismes dans la communauté sont obligés de s'adapter, de se conformer. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles de ce côté-là?
Oui, bien, tout d'abord, une question qu'on a vue passer rapidement sur les médias sociaux, c'est des interrogations des gens qui font appel à des préposés à domicile avec l'aide du chèque emploi-service et des impacts du couvre-feu. Là, je dirais que pour l'instant, les nouvelles sont disparates, un peu les consignes varient. Il y a des gens qui se sont fait dire que la personne pouvait se promener tout simplement avec un talon de paye, que ça allait faire l'affaire. D'autres personnes ont dit de reproduire une autorisation comme le modèle qui est disponible du gouvernement du Québec. Vous allez entre autres pouvoir avoir une copie de ça sur la page Facebook du RAPLIC, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Et d'autres, j'ai vu passer d'autres informations qu'il fallait obtenir l'attestation de son CLSC, de son CIUS. Alors, ça varie beaucoup. Alors, si vous faites affaire avec un organisme, continuez à suivre les consignes qu'ils vous donnent. Et puis, ben, on compte aussi, évidemment, sur le bon sens des autorités, parce que des personnes ont besoin d'aide, par exemple, pour se coucher.
Oui, on pourrait définir ça comme étant essentiel assez facilement.
Oui, parce que passer la nuit dans son fauteuil roulant, c'est pas une bonne nouvelle pour personne. J'ai regardé aussi les différents sites des transports adaptés pour voir s'il y avait de l'impact. Évidemment, pour le transport en commun en général, on dit c'est pas les sociétés de transport qui vont vous contrôler. Ils prennent pour acquis que si vous prenez le transport en commun le soir, c'est que vous vous rendez ou que vous revenez du travail. Il y a la RTL, le RTL à Longueuil, donc, qui précisait que pour la clientèle du transport adapté, seuls les déplacements pour le travail et des raisons médicales seront maintenus entre 20h et 5h. Mais en même temps, on se demande où d'autres iraient les gens, là. Alors, les autres sociétés de transport ne le précisent pas. Ils précisent que les services se poursuivent. Il y a peut-être quelque chose qu'on va suivre. Il y a un groupe Facebook où discutent beaucoup les gens qui utilisent le transport adapté qui trouvent que il y a quand même beaucoup de gens dans les véhicules à ce moment-là, oui. Surtout quand la personne a un accompagnateur et qu'ils sont peut-être un peu inquiets pour leur sécurité. Je vais fouiller ça un peu plus cette semaine pour voir s'ils ont des réponses.
Maintenir 2 mètres dans une wagonnette, ça peut pas s'appliquer à beaucoup de gens.
C'est que les véhicules de transport adapté sont pas tous les mêmes. Parfois, ce sont des taxis.
Exact.
Et on dit que la protection, c'est pas toujours un plexiglas. Parfois, c'est du plastique.
Oui, oui.
Donc, je vais regarder ça un peu. Évidemment, le nerf de la guerre dans des situations comme présentement, c'est beaucoup l'accès à l'information pour tous. J'ai rien noté sur le site du RAC, par exemple. C'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être qu'on a moins de difficultés qu'au printemps à obtenir de l'information pour tout le monde. Par contre, j'ai remarqué sur les médias sociaux qu'on partage beaucoup une infographie du gouvernement pour dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Beaucoup d'organismes le partagent, des pages Facebook de ministres, de députés. S'il vous plaît, pensez aussi aux personnes qui utilisent des lecteurs d'écran, parce que l'écriture, je le rappelle, je l'avais dit dans ma chronique sur mes vœux de Noël, l'écriture dans une image, c'est comme vide. C'est comme votre titre Facebook dit « Voici les règles à suivre, 2 points », et qu'ensuite les règles sont dans une image, mais votre message est vide pour les personnes.
Une image vaut 1000 mots pour certains, mais pour d'autres, 1000 mots valent une image.
Valent 0 mot.
Ouais, c'est ça.
Et il y a aussi la question, c'est pas nécessairement du noir sur blanc, il y a la question du contraste pour certains, en tout cas visuel. Il y a la question des personnes qui ont des troubles de lecture de type dyslexie. Alors, c'est pas, les images ne sont pas non plus réactive quand on est sur son cellulaire et que c'est tout petit. Alors, privilégier une version texte ou du moins un lien vers une version texte. La question des produits essentiels, moi, ça m'a soulevé des questions parce qu'il faut avoir accès à Internet et à une carte de crédit le plus souvent pour faire des commandes en ligne pour des produits qui sont considérés comme pas essentiels. Mais en attendant, en tout cas, je rappelle qu'il y a des services de dépannage offerts par certains organismes pour des personnes pour qui faire leurs courses est compliqué. À Montréal, le RAM offre ce service et dans le reste du Québec, vous pouvez faire appel à la fondation INCA.
Oui.
Et puis, si vous connaissez aussi quelqu'un dans votre entourage pour qui les achats en ligne sont compliqués, peut-être appeler la personne, se renseigner. Peut-être que c'est pour vous, c'est plus facile d'accès. Bien, vous pourriez offrir de faire l'achat pour la personne et qu'elle vous rembourse.
Oui, de pouvoir mettre en commun ses achats puis trouver une façon de faire le lien pour faire la livraison.
Ben oui, aussi en se mettant en commun, parfois on a un tarif plus avantageux aussi pour
une livraison gratuite à la porte ou quelque chose comme ça.
Et voilà. Ce qui m'amène aussi au fait que en période de confinement comme ça, on est tenté de faire du ménage. Et quand on fait du ménage, on a hâte que les choses dont on veut se débarrasser s'en aillent. Mais on assiste à un phénomène depuis le début de la pandémie de dépôts sauvages. Là où il y a des boîtes de dons, des organismes, et entre autres l'organisme Le Support qui soutient financièrement la Société québécoise à déficience intellectuelle.
On voit leur grande boîte bleue un peu partout.
Oui, mais quand vous mettez des choses à l'extérieur de la grande boîte bleue parce qu'il n'y a plus de place, ce sont des dons qui vont être, un, gaspillés et qui engendrent des coûts pour ces organismes-là qui sont déjà pas riches.
Ben, c'est tout mouillé. Vous mettez des vêtements à la pluie, à la neige, ça va être tout mouillé, c'est ruiné.
C'est ça, et les personnes, organismes payent pour les conteneurs de déchets.
Exact.
Alors, s'ils n'ont plus de déchets qu'à l'habitude, et puis vous allez avoir raté votre don, ce ne sera pas différent que si vous les aviez vous-même mis au chemin.
À la
chez
poubelle,
vous.
Tout à fait. On a l'impression qu'on donne, mais finalement, on fait juste ennuyer l'organisme en lui confiant des vêtements mouillés ou des objets qui ont gelé, qui sont brisés. Puis, je dirais, le stand d'achat ou le propriétaire de l'emplacement où est la grande boîte bleue, va peut-être en avoir soupé d'avoir tous ces détritus qui se ramassent chez lui.
Moi, je mettrais ça en lien avec le sujet précédent et je dirais, annoncez donc sur les médias sociaux les choses que vous avez à donner.
Oui.
Peut-être que quelqu'un est en train ne peut pas l'acheter, cette chose-là, en ce moment.
Alors, ça se peut aussi.
Et puis, je voulais vous dire rapidement quelques mots sur les invités de nos collègues cette semaine.
Oui.
Camille Chai reçoit David Demers de la Fondation INCA et le journaliste Julien Renaud, qui est en situation de handicap depuis quelques années à cause d'une maladie rare. Il est journaliste au journal Le Quotidien. D'ailleurs, je vous invite à le suivre, il a des chroniques vraiment très intéressantes. L'émission où on parle de sport nous parlera de Jeux paralympiques comme outil d'inclusion, avec comme invité le professeur Benoît Séguin. Il parlera aussi de l'équipe de paraski nordique de Julie Beaulieu. Il parle aussi des sports non-para. Là, je vous invite à vraiment aller jeter une oreille à cette émission. Et Hélène Denis, tous les matins à 10h, fait des entrevues en lien avec le handicap, la santé mentale ou les aînés. Et justement, demain, la programmation de Mi-Télé cet hiver avec Isabella Feridi, qui est vice-présidente développement de contenu et programmation chez Mi-Télé. Plus tard cette semaine, on parlera d'une formation pour le milieu communautaire pour les gens qui, justement, sont appelés à travailler avec les personnes en situation de handicap. Ça se passe dans le centre du Québec. Et finalement, jeudi, les conférences mémorables 2021 de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, janvier, et justement le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer.
Ah, mais ça, c'est bien, parce que avec l'isolement, en plus, les personnes qui ont les premiers symptômes et qui montrent les premiers signes d'un progrès, d'une progression de maladie d'Alzheimer, souvent, là, ça aide pas tellement là, l'isolement puis de ne pas être capable de communiquer, la confusion qui vient avec tout ça. Janvier est un mois triste ou difficile pour beaucoup.
J'adore le nom de leur conférence.
Oui, conférence mémorable. Pas besoin de prendre de notes.
C'est un très beau clin d'œil.
Exact.
Vu qu'on s'adresse à des personnes qui commencent à vivre des pertes de mémoire. Et bien évidemment, tout ce programme-là 2021 sera sous forme de webinaire.
Parfait.
Alors.
Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Christiane Campagna, notre recherchiste, qui n'a pas été globetrotter cette semaine, mais ça va revenir la semaine prochaine.
Et oui, bien sûr.
L'émission Sans détour, ici François Beauregard. Je m'en voudrais de ne pas souligner également l'extraordinaire contribution de M. Jean-Sébastien Laliberté, qui aujourd'hui a choisi des chansons faites pour nous faire sourire. Merci et à la prochaine.